Radio Kapi.
Journal s'ouvre par la Biennale de Luanda, ce forum qui a réuni quelques chefs d'État, dont Félix Tshisekedi de la RDC. Ce forum a pour objectif de promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits à travers des échanges culturels en Afrique. À suivre également dans cette édition, c'est cet incident avec mort d'homme dans la ville de Bukavu. Une bâtisse de 3 étages s'est écroulée, créant mort et blessé grave. Plus de détails dans cette édition avec Rachel Kessembangou. Et comme invité, professeur Betty Nyandingula, elle est présidente du Comité national paralympique du Congo. Avec elle, nous parlons de la 3e édition du championnat national de basket sur fauteuil roulant. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité des sexes, c'est l'objectif de la Biennale, un forum panafricain auquel a participé le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi hier samedi 27 novembre en Angola. Paul Matendo, selon une dépêche de la presse présidentielle parvenue ce dimanche 28 novembre à Radio Okapi Kinshasa, plusieurs chefs d'État ont assisté à cette journée inaugurale.
La 2e édition de la Biennale de Luanda a réuni en présentiel plusieurs dirigeants dont le président au Portugal Marcelo Souza, João Lourenço d'Angola, Denis Sassou Nguesso du Congo Brazza et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC indique cette dépêche. Pour sa part, Félix-Antoine Tshisekedi a expliqué la motivation de cette initiative prise par l'Union africaine en 2015. En sa qualité du président de cette organisation panafricaine, il a saisi cette occasion pour remercier et féliciter le président de l'Angola pour le respect de la périodicité de ce forum. La même source ajoute que, pendant ses assises, le président de la RDC a annoncé l'ouverture prochaine à Kinshasa de la Maison de la Culture Africaine et Afro-Descendante, le lancement du Festival Panafricain de Kinshasa Fespakin, ainsi que le Grand Prix Panafricain des Littératures. En ce qui le concerne, le président de l'Angola, João Lourenço, a expliqué la façon dont les arts et le patrimoine interagissent avec les conflits, la réconciliation et les efforts pour reconstruire des sociétés plus pacifiques. À ce rendez-vous, Félix-Antoine Tshisekedi était accompagné, entre autres, du ministre de l'Intégration régionale et des membres du panel d'accompagnement de la mandature à l'Union africaine.
Dans la province du Maniema, l'ASBEL, réseau des agronomes pour la protection environnementale au Maniema, RAPEM, vient de vulgariser et sensibiliser la population de la ville de Kindu et des 4 territoires de cette province sur la pratique de l'agroforesterie. Après un mois de sensibilisation, cette activité s'est clôturée le samedi 27 novembre à la tribune centrale de Kindu par une pièce théâtrale animée par Maniema Kwetu. Zachary Kalumenkowa, vice-président de RAPEM, explique le bien fondé de cette technique de vulgarisation agroforesterie au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons circulé les 4 territoires et à Kindu, nous avons présenté ces activités dans 3 communes de la ville de Kindu sur la vulgarisation de l'agroforesterie dans du Maniema. Nous vulgarisons cette technique de l'agroforesterie pour permettre à la population, pour permettre à la province du Maniema de retrouver sa couverture forestière naturelle ainsi que réduire tant soit peu la famine qui ronge nos familles ici dans la province du Maniema. Le gros de notre message, c'était d'informer à la population qu'il y a une nouvelle technique qu'on appelle l'agroforesterie. Cette technique nous permet de replanter les arbres là où il n'y a plus d'arbres. Et comme on ne peut pas seulement planter les arbres, on doit avoir aussi à manger, d'associer ces arbres-là avec d'autres cultures maraîchères, d'autres cultures pérennes, vivrières, pour donner une grande productivité à ces cultures-là.
Parlons à présent de ce drame dans le sud Kivu. 3 morts et 4 blessés graves, tel est le bilan de l'écroulement d'une maison en étage des 3 niveaux sur avenue ISGA dans la commune d'Ibanda. Cet incident s'est produit le samedi 27 novembre dans la matinée. D'après certains observateurs, la pente sur laquelle cette maison était construite serait l'origine de cet écroulement de la maison. Rachel Kessembangou.
Deux femmes et un homme d'une même famille ont été retirés des décombres de cette maison écroulée ce samedi 27 novembre. Le chef du quartier Nyalukimba dans la commune d'Ibanda affirme qu'une construction anarchique serait à la base de cet effondrement. Deo Kurasa.
C'est une maison de trois étages qui s'est écroulée, sur une autre qui était en dessous. Il y avait eu trois morts, quatre blessés graves, c'est ça le bilan. Cette maison, ça fait longtemps que ça provoque des menaces. Les autorités locales ont fait des rapports, mais les autorités ont fait sourd oreille. C'est ça le problème. Et ça a été mal construit sur une pente et aussi une mauvaise dose de ciment. Donc, une construction anarchique, je dirais.
Cette nouvelle soulève en même temps des interrogations sur les sérieux mis dans la construction des maisons en étage dans la ville de Bukavu. Les blessés, eux, sont acheminés à l'hôpital provincial général de Bukavu. Entre-temps, les recherches se poursuivent à cet endroit pour retirer d'autres corps des décombres. Bukavu, Rachel Kessier, Radio Okapi.
L'actualité nous amène à Butembo. Une quarantaine de militaires comparaissent depuis hier samedi devant la cour militaire du Nord Kivu qui tient une série d'audiences foraines dans la ville de Beni. Ces militaires sont poursuivis pour viol d'enfants, meurtre, tentative de meurtre, vol qualifié, vente des munitions de guerre et violation des consignes. Au cours de la première journée, l'audience était consacrée à l'identification des prévenus. Au total, ce sont 61 dossiers impliquant 72 prévenus, dont 44 militaires et 28 civils qui sont soumis à l'examen des juges pendant ces audiences foraines qui bénéficient d'un appui technique et financier de la section d'appui à la justice de la MONUSCO à Beni. Actualité à présent en rapport avec le genre. Ces femmes qui osent, sous le thème Covid-19, la nécessité ou non d'une loi contre les violences domestiques en RDC a été organisée à Kindu vendredi par l'ONG Abari RDC en faveur des membres des organisations de la société civile impliquées dans la défense des droits de la femme et les membres des organisations de défense des droits de l'homme ainsi que quelques journalistes. Florence Kizalunga a pris part à cette conférence débat. Voici son reportage.
Certes, il existe des problèmes de violence domestique. Cette conférence a été une occasion aux participants de réfléchir sur les voies et moyens de mener des actions pour lutter contre et faire des plaidoyers auprès des autorités. Guy Mouyembe, président de Abari RDC.
Quoi que l'on peut dire, ces violences domestiques ont toujours existé au Congo. Ça, c'est évident, mais on a constaté une certaine hausse. Les violences domestiques existent depuis que la marginalisation de la femme a été décrétée par les sociétés humaines et on n'en a jamais parler, raison pour laquelle on n'en entend pas souvent parler. Or, c'est une vraie réalité. Des femmes battues, des femmes violentées, des femmes maltraitées psychologiquement. Donc, il va falloir qu'on puisse tirer attention à cela.
Les participants ont jugé nécessaire d'avoir une loi à ce sujet. Baïsi Tchajartouid, chef de bureau à la division du genre.
En tant que femme du Maniema, compte tenu de la situation que traverse cette femme, quoi qu'elle soit une majorité de la population du Maniema, j'ai trouvé que c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Puisqu'il y a des spécificités que la COVID-19 venait de repérer dans nos foyers comme violence spécifique que la femme du Maniema est en train de subir en silence à domicile.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Un mot de santé, plus de 80% de la population des zones de santé de Mukedi et de Gungu dans la province du Kwilu sont contaminés par le microbe du paludisme qui est le plasmodium. C'est le constat fait par une équipe nationale du programme national des luttes contre le paludisme PNLP qui est descendue sur place pour des enquêtes entomologiques suite à cette maladie inconnue qui touche et qui tue les enfants de moins de 10 ans dans cette contrée. Ces déclarations du ministre provincial de la santé du Kwilu, Dr Bernard Mutui. Il indique que le résultat final de ces enquêtes sera communiqué ultérieurement. En attendant les résultats des échantillons envoyés à l'INRB pour des analyses approfondies, ils ne sont pas encore disponibles, a-t-il dit. On écoute le ministre provincial de la Santé du Kwilu, Benna Mutui. Il a été joint par Irène Boma.
Les échantillons, ils avaient envoyé à l'INRB pour des analyses approfondies. Mais jusque-là, nous n'avons aucun résultat. Mais il y a au moins une deuxième équipe du programme national de lutte contre le paludisme national qui est descendue et à Gungu et à Mukedi avec quelques experts de la DPS Kwilu. Ils ont mené des enquêtes entomologiques. Les rapports de leurs enquêtes seront publiés les jours à venir. Mais au moins, les constats faits pendant les enquêtes ont révélé que les moustiques capturés s'étaient au moins constitués à 100% des annonceurs. C'est déjà un problème. Et de deux, ils sont arrivés à remarquer qu'une moustique avait contenu 3 ou 2 espèces de plasmodium à la fois. Troisième constat qu'ils ont fait, c'est que chez les cas qui venaient à l'hôpital, et les personnes apparemment en bonne santé qui circulaient à travers les villages, quand on prélevait chez ces personnes-là pour faire des examens du sang, pour voir la recherche du paludisme, ils ont remarqué le sang de ces personnes-là contenait beaucoup de trophozoïdes. C'est-à-dire tout le monde là-bas, je crois à 82%, était contaminé par les microbes du paludisme plasmodium.
Dans la même région, dans la province du Maïndombé, la Caritas Congo sort de son silence et fixe l'opinion publique sur les revendications des enseignants de cette province, l'accusant régulièrement de les payer toujours en retard et de retenir à la source des fonds sur le salaire de chaque enseignant. Pour l'abbé Emmanuel Ndoïté, responsable de cet organe humanitaire, sa structure effectue la paie des enseignants selon qu'elle reçoit l'argent du gouvernement central, car elle ne dispose pas de liquidité et aussi suivant la disponibilité des avions pour accompagner les agents payeurs. S'agissant du retrait à la source, il parle des frais de tenue de compte qui figurent sur les listings de paie. Abbé Emmanuel Ndoïté est joint par Irène Beaumont.
La Caritas n'a pas l'argent, la liquidité. La Caritas prend l'argent du gouvernement et elle l'amène aux enseignants. Le commun des mortels, les enseignants ne comprennent pas. Donc l'argent est à la banque à Kinshasa. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, nous sommes dans une zone forestière. On est dans les Maïndombé, on a des forêts, on a des eaux. Donc il nous faut des moyens logistiques conséquents. Et nous avons opté pour les avions. Et si nous avons l'argent, donc il faut que les avions nous accompagnent à Oshieni, à Kiri, à Nyoki, à Bokoro, à Inongo, vous voyez. Donc nous n'allons pas risquer nos vies aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme insécurité, amener l'argent sur l'eau, on ne peut pas le faire.
Et que direz-vous par rapport au retrait à la source?
Les frais de tenue de compte.
Nous recevons les listings, c'est pas nous qui imprimons les listings, et c'est marqué sur ces listings-là. Donc ça, c'est pas notre responsabilité. Donc la Caritas, c'est un organe humanitaire, nous travaillons pour aider. Notre objectif, c'est d'aider, mais nous voulons aider de la meilleure façon. Nous avons des frères et sœurs qui sont enseignants, et nous ne pouvons pas être contents qu'on garde l'argent pendant que mes propres frères et sœurs sont en train de souffrir.
C'est parti, le signal de Radio Banokapi est on air à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Les enfants, tout comme les parents de cette partie du territoire national, sont servis. Sur place, l'audience accordée à cette nouvelle radio qui vient s'ajouter au paysage médiatique du Tanganyika intéresse déjà plus d'un auditeur et d'une auditrice de Kalemi. La nouvelle sur le lancement du signal se répand vite comme une traînée de poudre dans la ville. Je vous propose le reportage de François-Xavier Mibé.
Le signal de Bana Okapi vient d'être lancé depuis mercredi dernier 24 novembre, exactement à 13h05 sur la fréquence modulée de 103.5 à Kalemi. Ces lancements interviennent juste après une journée d'essais qui se sont révélés concluants. Sur place, les auditeurs et les auditrices des radios Okapi, au départ, avisés sur l'implantation prochaine d'une antenne de Bana Okapi à Kalemi, beaucoup d'entre eux et elles n'ont pas pu marquer une grande surprise sur les ondes. Beaucoup d'autres encore se réjouissent d'entendre déjà sur Bana Okapi de la musique qui les accompagne dans leurs occupations. Pour Sylvie Mbouyou, une habitante du quartier d'Ave, le lancement de Bana Okapi à Kalemi est en partie une réponse aux préoccupations des parents sur l'éducation et l'instruction des enfants.
Je pense que les enfants n'ont plus de modèles. Avec Bana Okapi, je crois que les préoccupations des parents trouveront des réponses.
Alors que François Djabi Kabila, de la classe des 7e au complexe scolaire Zawadi, au cœur de la cité de Kalemi, est familier à Okapi École pour y avoir participé plus d'une fois, parle d'une radio qui vient au service des enfants.
Avec Bana Okapi, nous les enfants du Tanganyika, nous sommes bien servis.
Kalemi, François Djabé Mibé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les Sud-Africains à Pretoria samedi se sont inquiétés de la forte hausse des infections à COVID-19 à la suite de l'identification de la nouvelle variante d'Omicron qui serait très transmissible. Sur le campus de la Tshwane University of Technology, les étudiants étaient au courant de l'augmentation du nombre d'étudiants positifs à la COVID-19, un étudiant qualifiant cette situation de catastrophe naturelle. Un autre mot de COVID, connu sous le nom scientifique de B1640, le variant congolais a été découvert dans une famille en France de retour d'un voyage en République du Congo. Alors que l'attention internationale est focalisée sur la découverte du nouveau variant sud-africain Omicron, l'Europe découvre à peine un variant en provenance du Congo-Brazza aux mutations inhabituelles. Les scientifiques congolais, eux, l'ont découvert bien plus tôt. À ce jour, 8 cas ont été détectés en République du Congo et 24 autres dans le reste du monde. Il a été classé sous surveillance dans toute l'Europe.
L'invité.
La troisième édition du championnat national de basketball sur fauteuil roulant vient de débuter ce matin au stade paralympique de Goma. 5 provinces prennent part à ce championnat. Il s'agit de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord et Sud Kivu, ainsi que du Haut-Katanga. Un match d'ouverture, l'équipe féminine de Kinshasa a battu celle de la Tchopo par un score de 22 à 18. Nous recevons à ce sujet la présidente du Comité national paralympique du Congo, professeure Betty Miandingula. Elle s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Professeur Betty Miandingula, bonjour.
Bonjour.
Quelles sont vos impressions au lancement de cette compétition?
Mes impressions sont très bonnes. Et surtout, ce troisième championnat va connaître beaucoup d'innovations. Donc, il y a des équipes qui n'étaient pas là. À la deuxième édition, seront là, notamment l'équipe du Haut-Katanga. Donc, il y a les deux versions, masculine et féminine. Donc, c'est vraiment la joie immense de voir que cette compétition puisse réellement se réaliser.
Quel est le but poursuivi par cette compétition?
Le thème principal de ce troisième championnat, c'est l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap par le sport. Donc, on veut montrer aux gens, à la communauté congolaise, que grâce au sport, on peut facilement intégrer les personnes en situation de handicap dans la société. Évidemment, il n'y a pas que ça, parce qu'il faut une autonomie financière. Mais du moins, à partir du sport, ils peuvent rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre. Et en même temps, ça peut faciliter des liens sociaux. Et en même temps, ça peut les aider également à s'épanouir et à se développer physiquement, psychologiquement et même sur le plan de leur santé. Parce que grâce au sport, le sport peut être un moyen efficace de promotion de leur santé. Parce que n'oubliez pas que les personnes en situation de handicap sont exposées aux mêmes maladies, notamment les maladies non transmissibles, par exemple le diabète, l'hypertension, etc. Et grâce à la pratique de ce sport-là, sur le plan santé, ça peut améliorer en tout cas leur santé. Donc au-delà de la santé, nous on a pensé à l'inclusion sociale de ces personnes parce que vous devez le savoir, non? Ces personnes sont souvent rejetées par la communauté. Il faut que les gens viennent voir ce qu'ils sont capables de faire de manière à ce que tout ce qui a été érigé comme barrière, qu'on puisse les éliminer petit à petit.
Aujourd'hui, c'est la troisième édition de ces championnats. La deuxième, elle a eu lieu quand?
À Kinshasa en 2018. Oui, à Kinshasa. La première a eu lieu à Goma en 2016. La deuxième à Kinshasa 2018 et maintenant nous sommes ici à Goma.
Uh-huh. Ouais. Et pourquoi autant d'écart dans l'organisation de ces championnats pourtant très importants dans l'inclusion des personnes vivant avec handicap?
C'est faute de moyens. Parce que organiser un tel championnat demande beaucoup de moyens. Heureusement, cette fois-ci, on a eu le soutien, en tout cas 100% pratiquement du CICR, sauf pour le Haut-Katanga où le gouvernorat a pris les choses en main et eux viennent avec le moyen du gouvernorat du Haut-Katanga.
Du côté du gouvernement congolais, un message pour la promotion de personnes vivant avec handicap à travers les sports?
Au niveau du gouvernement congolais, je lance un SOS. Il faudrait qu'on arrive à considérer les parasports, donc les sports en faveur des personnes en situation de handicap, au même titre que les sports olympiques. Et qu'on donne aux différentes structures qui gèrent le parasport des moyens nécessaires, des subsides nécessaires pour faire effectivement la promotion de ce sport, déjà à partir de l'école, à partir des universités, à partir des hôpitaux, etc., pour que ce sport se développe. Et en même temps, pour donner l'opportunité à chaque personne en situation de handicap de le faire. Parce que ici, on parle des activités physiques adaptées. Toute personne, quel que soit son handicap, est en mesure de pratiquer le sport pour sa santé, pour son éducation, pour la vie. Parce que souvent, nous, on dit le sport, c'est la vie. Hein? Donc il faudrait que les gouvernements à chaque niveau, les centrales, les gouvernements provinciaux, etc., puissent nous accompagner dans cette charge qui est la prise en charge par les sports des personnes en situation de handicap.
Et pour terminer, professeur Betty Miangindula, au terme de ces championnats, qu'est-ce qui va suivre?
Pendant que je vous parle, il y a déjà une sélection qui va prendre part au championnat du monde de basketball. La version masculine de la RDC va prendre part au championnat du monde en Afrique du Sud. Je ne sais pas si ça aura lieu, mais en tout cas, il y a déjà une sélection qui est là. Le championnat ici est vraiment le but de ce championnat. C'est parler de l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap par le sport. Donc là, c'est vraiment le but essentiel. Mais évidemment, les entraîneurs sont là pour sélectionner les meilleurs. Et là, il y a plusieurs occasions futures qui vont se présenter. Et je crois que ces meilleurs pourront représenter la RDC.
Professeur Betty Miangindula, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Fidèles auditeurs, merci pour l'attention soutenue que vous avez accordée à cette édition de journal sur Radio Okapi.